Les masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Brigitte Giraud avec Olivia Gesbert.
Vivre vite, son dernier roman, publié chez Flammarion, a reçu le prix Goncourt l'an passé. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, 15 ans après le Goncourt de la Nouvelle pour son recueil « L'amour est très surestimé » paru chez Stock, qui était son premier éditeur. Elle est écrivaine, Brigitte Giraud, elle était journaliste et elle était libraire auparavant. Lectrice désordonnée, comme elle se définit, elle n'en continue pas moins à lire beaucoup, pour le plaisir et puis pour programmer la fête du livre de Bron. J'ai vu quelque part qu'elle est un écrivain de la délicatesse du corps et des failles. Elle ajouterait sûrement aussi de mes propres obsessions qu'elle met en scène dans ses livres. C'est une écriture qu'on peut qualifier d'autobiographique, d'autant qu'il y a toujours quand même quelque chose d'elle, à la fois dans ses romans, Nous serons des héros, Avoir un corps, Un loup pour l'homme, et encore plus évidemment dans ses récits, À présent, et le dernier, Vivre vite, variation autour de la mort de Claude, son compagnon et père de son fils, il y a 20 ans après un accident de moto. Nous ouvrons donc à présent la masterclass de Brigitte Giraud en public de l'auditorium de la BNF avec le CNL et France Culture. Et on ouvre le micro de notre invité. Comment allez-vous ?
Bonjour. Bien, c'est bien.
Quel sens vous donnez à l'écriture, Brigitte Giraud ? Il faut dire quel sens ou quelle vertu ? Non, on garde plutôt quel sens.
J'aime bien le mot « sens ». Comme dirait Dominique A., je n'ai pas trouvé le sens. J'aime bien cette chanson. Non, le sens, j'ai fini par me rendre compte que l'écriture était peut-être ce qui me donnait comme une astuce pour vivre deux fois. Comme si la vie, on va dire, quotidienne, ordinaire, que j'ai eue pendant quasiment pendant plus de 30 ans, n'était pas suffisante et comme si j'avais besoin d'un pas de côté. Avec comme un petit laboratoire dans lequel je faisais des expériences avec des sensations, des personnages, des situations particulières. Voilà, c'est, je dirais cela.
Vivre deux fois, ça veut dire se chercher une autre vie à travers l'écriture ?
Ou peut-être avoir un prétexte pour s'arrêter, pour arrêter le flux, le flow, la vie qui va très vite. Et quand on s'arrête, on peut s'immerger. Et c'est là que des sortes de vérités se mettent à paraître évidentes. C'est le seul endroit où on peut s'arrêter, oui.
Est-ce que vous vous souvenez, Brigitte Giraud, des premiers mots de « À présent », votre livre récit paru en 2001 ?
Oui, je m'en souviens d'autant plus que pour être capable d'écrire ces premiers mots, cette première phrase, j'ai dû m'adosser à un écrivain qui m'a aidé à oser poser cette première phrase. La première phrase de « À présent », qui est un récit que j'ai écrit à peu près 18 mois, 2 ans après l'accident de Claude, c'est « Ce soir, Claude est mort ». C'est une phrase extrêmement simple, avec le choix du présent, avec tout un tas de choix. Ça paraît rien du tout, une petite phrase comme cela, mais avant de pouvoir oser ouvrir ce récit et me frayer une voie pour construire ce récit, il a fallu que je m'adosse à quelqu'un de plus fort, de plus grand, de plus ancien, un grand écrivain qui est Albert Camus, qui dans L'étranger avait écrit « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être hier. Et très souvent, dans mes livres, il y a une phrase ou deux phrases comme ça qui traversent le récit, qui paraissent invisibles, mais dont je sais très bien qu'elles m'ont permis d'aller un petit peu plus loin.
Pour vous, ce sera « Ce soir, Claude est mort, je l'aimais ». C'est la suite de cet incipit. Et là, c'est le passé qui revient.
Alors, c'était très compliqué parce que ce « je l'aimais » m'a posé un problème étourdissant. Parce qu'on comprend bien que je l'aimais, mais qu'au moment où j'écris, je l'aime, et même presque éternellement. Ce qui veut dire que l'écriture, la grammaire, l'enchaînement, la construction est vraiment au cœur d'une réalité extrêmement concrète et symbolique. Et d'emblée, je savais que cette deuxième phrase n'allait pas, mais elle allait dans le sens de l'écriture, et je me suis dit que j'avais tout le récit pour venir la confirmer, la contredire et nommer tous les paradoxes attachés au fait que la personne que vous aimez n'est plus là.
Ce soir, Claude est mort, je l'aimais. Est-ce que vous saviez que cet incipit serait le fil conducteur de toute une œuvre, ou en tout cas d'une partie de votre œuvre, Brigitte Giraud, évidemment jusqu'à Vivre vite, 20 ans plus tard?
Non. J'aurais pas imaginé. Maintenant, ça fait plus de 20 ans. Quand j'ai publié À présent, en 2001, j'avais déjà publié deux autres romans, La chambre des parents et Nico, qui étaient des romans avec des personnages et qui mettaient en scène des questionnements personnels et évidemment des questionnements autobiographiques, ce qui est le cas de tous les livres, à mon avis, de tous les écrivains. On ne peut écrire qu'à partir de choses qui vous interrogent, qui vous inquiètent, qui vous déséquilibrent, qui vous perturbent. Alors parfois, c'est pour des choses magnifiques, hein, comme l'amour. Mais non, j'imaginais pas que le parcours se ferait ensuite autour de ces questions qu'on peut appeler au sens très large l'absence et la présence.
C'est-à-dire qu'en écrivant À présent, il y a 20 ans, vous jetiez une pierre et elle était peut-être définitivement jetée. Vous avez écrit en plus ce récit quand même encore sur le vif de la douleur, hein.
Oui, et comme vous parlez d'une pierre, ça me fait penser à des ricochets, en fait. J'avais jamais eu cette image, mais je la trouve assez assez juste et assez belle, parce que les ricochets n'ont pas tous le même impact à la surface de l'eau. Certains sont bien plus vont perturber davantage l'onde, et puis d'autres vont se faire plus discrets. Et c'est vrai que ça peut ressembler à ce que j'ai écrit par la suite. Et quand j'ai écrit À présent, je sais même plus maintenant comment je l'ai écrit, mais c'est un livre relativement bref qui fait une centaine de pages dans le petit format de chez Stock à l'époque. Ce livre-là était un livre qu'aujourd'hui je peux désigner comme un récit de la déflagration, de la sidération, du chaos, du fracas. Je peux mettre ces mots-là aujourd'hui. D'ailleurs, le premier titre, c'était Fracas. Puis j'en ai parlé avec mon éditeur, qui était Jean-Marc Roberts, qui a été mon premier éditeur et qui a été l'éditeur de nombreux livres, m'avait dit que Fracas, pour lui, il y avait il entendait quelque chose de poétique qui était peut-être en décalage trop grand avec le récit. Et on a fini par le nommer « à présent ». Et c'est vrai que dans ce « à présent », il est principalement question du temps, c'est-à-dire de ce qui surgit dans un temps qui va s'interrompre et qui va devoir se exploser en morceaux et puis se recomposer, se réinventer. Et après coup, je me suis dit que dans « à présent », il y avait le lien à la présence, le fait d'être présent. Et il y avait encore autre chose, qui est le rapport « faire un présent ». Ça, je l'ai vu peut-être plusieurs années plus tard. Et donc, quand j'ai écrit ce livre-là, en effet, j'étais encore évidemment dans ce chaos. Mais c'était peut-être la première fois que par l'écriture s'inversait un processus. Le deuil, pour moi, c'est lié à un processus de domination et de soumission. C'est-à-dire que vous êtes très nettement soumis aux événements, soumis à ce qui arrive, vous n'êtes d'accord avec rien, et vous n'êtes pas d'accord avec les récits qui en sont faits, le récit du prêtre, des pompes funèbres, de la famille, tous les récits de l'hôpital. Enfin, c'est totalement surréaliste, évidemment. On est dans une réalité qui est totalement sidérante et qui ne convient jamais. Et l'écriture est peut-être le moment où il y a un processus qui s'inverse, c'est-à-dire que la domination change un tout petit peu de camp, et là vous êtes capable d'une seule chose, mais c'est de choisir les mots que vous pouvez mettre ensemble pour construire un récit. Et je me suis rendu compte après coup que l'écriture d'À présent, c'était une façon de me réapproprier une histoire que je n'avais pas choisi de vivre, mais qui était la mienne.
Et ce « à présent » marque un instant ou un espace-temps, vous le racontez très joliment dans le livre, hein, ce « on n'a rien pu faire » de cette phrase des médecins, ce qu'ils vous disent au moment où Claude meurt, trépasse de cette phrase-là, cette phrase couperet, vous écrivez alors qu'elle marque la frontière entre l'avant et l'à présent. Est-ce que le « et si » qui scande le récit roman Vivre vite, qui est apparu l'an passé. Est-ce que ce « et si » de Vivre vite est aussi pour vous une phrase frontière ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vous a ouvert un autre espace-temps ?
Alors oui, c'est un espace-temps qui est vertigineux et qui peut même être infini. L'enjeu de Vivre vite, c'était de pouvoir borner ces « si », ces hypothèses, et de pouvoir borner aussi le passé, parce que le « si » est un temps qui appartient au passé, puisque c'est une façon d'essayer de réinventer au conditionnel passé ce qui aurait pu se passer ou ce qui s'est passé. C'était une façon de remettre en selle, si je peux dire, tout un tas de réalités qui s'étaient agrégées les jours, les semaines et les mois qui ont précédé l'accident. En fait, le livre est parti de cette première idée parce que j'avais remarqué que la semaine qui avait précédé, rien ne s'était passé comme prévu. Et il y avait une première pierre, un premier si qui était très important, qui était en lien avec cette maison, qui va faire l'objet du premier ou du deuxième chapitre, je ne sais plus. Cette maison que je m'étais mise absolument en tête de vouloir acheter, avec tous les voyants qui étaient au rouge, puisque c'était une maison qui n'était pas à vendre. Donc j'ai su tout de suite que, en effet, tordre le destin était quelque chose qu'il aurait sans doute pas fallu faire. Donc ce premier « et si » s'est posé vraiment parce que c'était extrêmement net.
Et c'est à partir de là que tout s'accélère, parce que vivre vite, c'est effectivement un compte à rebours. Hein. Vous réécrivez l'histoire des jours et des heures qui ont précédé l'accident de Claude, votre mari, décédé en 1999. Et si je n'avais pas visité cette maison ? Et si je n'étais pas allée à Paris ? Et si Claude n'avait pas emprunté la moto de votre frère ? Il n'y a que l'écriture, au fond, qui puisse aider ou permettre d'essayer de maîtriser le destin, en tout cas de le changer. Il n'y a qu'avec la littérature qu'on peut essayer de changer le cours des choses. C'est une douce illusion, en réalité.
C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une autre raison fondamentale, c'est qu'il s'agit aussi d'un accident qui n'a pas d'explication. C'est un accident qui... Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc forcément, nos cerveaux humains, en tout cas le mien, a besoin d'explorer absolument toutes les pistes pour essayer de comprendre peut-être l'incompréhensible, de mettre du sens là où il n'y a peut-être pas de sens. Et puis, ouais, je me suis rendu compte que ce livre était peut-être aussi une tentative finalement désespérée, puisque forcément, de faire en sorte qu'il y ait une autre issue à l'histoire. Puisque, et je me suis rendu compte bien évidemment que la littérature est impuissante et qu'on est face à une impuissance flagrante. Mais en même temps, si l'écriture n'est pas capable d'inverser le cours des choses ou de faire revenir ceux qui ne sont plus là, ce dont je n'ai jamais douté, elle a quand même une vertu de faire en sorte que le lien au réel soit un petit peu différent. Et ça donne quand même du sens à l'écriture. Il y a la réalité et puis il y a le lien que vous entretenez à la réalité. Et ça, c'est quand même quelque chose de monstrueusement envahissant.
On parlait d'à présent. Vous nous disiez qu'au moment d'à présent, au moment de l'écriture d'à présent, en 2001, quand le livre paraît, vous ne saviez pas que cet amour et ce deuil, enfin vous dites cette absence, ne vous quitterait jamais. Évidemment, vous le saviez pour la femme que vous êtes, mais pas forcément pour l'écrivain. Vous ne saviez pas que vous retrouveriez ce moment dans un livre 20 ans après qui est « Vivre vite ». Pourquoi il s'est imposé ce livre-là, finalement ? Pourquoi il est revenu 20 ans après ?
Alors, je ne le savais pas, et en même temps, intuitivement, je le savais. C'est-à-dire, je l'ai su assez vite, parce que je savais à ce moment-là que le livre, je ne l'avais pas fait. Je savais qu'à présent était, comme je l'ai dit, un livre de peut-être une forme de nécessité à un moment très particulier. C'est un livre qui parle de ce paradoxe totalement fou qui fait que vous devez résoudre une équation très compliquée qui consiste à rester debout, à émettre tous les signes extérieurs montrant que vous êtes debout, que vous agissez, que vous vivez, que vous prenez soin, par exemple, de votre enfant, que vous travaillez, alors qu'à l'intérieur, tout est détruit, mais vraiment effondré. Et donc, c'est un paradoxe qui nécessite de l'expliciter par l'écriture, et c'est surtout invisible. Et ce qui fait écrire, c'est souvent ce qui est invisible. L'écriture, c'est quasiment tout le temps cela, rendre visible ce que personne ne veut voir, ou ce qu'une société ne veut pas voir, ce que des individus ne veulent pas voir, ce que des proches ne peuvent pas voir, et c'est tout à fait logique. Alors donc, je savais qu'un jour, il me faudrait avoir l'énergie, ou qu'il me faudrait oser, plus simplement, écrire le livre qui rendrait compte de l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire cet accident qui n'a pas d'explication, et puis ce cours des choses, parce que j'ai su très vite que toutes les circonstances, comme je l'ai dit, qui ont précédé l'accident, mais depuis même des années avant, avaient conduit vers ce drame de façon inéluctable. Comme un arbre généalogique qui fait que les choix d'une vie, tel choix qui s'enchaîne avec tel autre choix, etc., etc., va conduire vers ce moment-là. J'ai reporté ce livre pendant une vingtaine d'années parce que ce livre me faisait peur, parce que c'est vraiment une recherche de tout un tas de vérités qu'il fallait que je sois capable de faire émerger, fallait que je sois sortie du chaos, fallait que j'ai retrouvé la pleine possession de mon énergie, de mon cerveau, de tout ce qui fait un être humain absolument debout. Et comme ce livre me faisait peur, j'écrivais d'autres livres entre-temps. Il me faisait peur parce qu'il fallait que je sois à la hauteur. Fallait que je sois à la hauteur de cet homme. Donc c'est pas rien d'être à la hauteur de quelqu'un, d'autant quand il n'est plus là, d'autant plus. Il fallait que je sois à la hauteur de l'histoire d'amour, donc ça c'est très impressionnant aussi. Il fallait que je sois à la hauteur de l'événement, puis il fallait que je prenne le temps de mener une enquête, parce que ce livre est une enquête, est une succession d'enquêtes, enquêtes à la fois intimes, à la fois collectives, à la fois sociologiques, historiques, politiques, enfin, il y a tout un tas d'enquêtes qui se croisent, et qui font que ça a donné vivre vite.
Et peut-être être aussi à la hauteur de la mère que vous êtes, parce que c'est un livre que vous dédiez à votre fils, et il est très présent quand même dans ces pages. On sent que c'est aussi son histoire que vous lui racontez, comme vous avez cherché, dans d'autres de vos livres, à comprendre l'histoire de vos parents. Et c'est le cas notamment d'Un loup pour l'homme, où vous avez refait l'histoire, et on va y revenir, de votre père, de vos parents, de votre propre naissance. Hein. Mais ce livre-là, Vivre vite, il est aussi ça, simplement, un peu pour vous, ce livre au fils que vous transmettez, cette histoire d'amour. Il est né de ça, cet enfant.
Oui, exactement. Et en même temps, j'avais la conscience de ne surtout pas vouloir exposer mon fils, qui avait 8 ans au moment où son père est mort. Et bien sûr qu'il est extrêmement présent, mais il est présent de façon, me semble-t-il, assez furtive. Je ne voulais pas l'encombrer, je ne voulais pas être pesante, parce que c'est aussi le sentiment très particulier du fait d'être une mère. D'ailleurs, il y a un chapitre qui concerne ce fait d'être mère. Voilà, la psychanalyse nous dit que être mère est forcément lié à ce qu'on appelle la folie maternelle. Ça, c'est la lacanienne Dominique Guillemard qui, je venais juste de la lire au moment où j'ai écrit, qui dit ça. Et bien sûr, c'est extrêmement intéressant. On dit que les mères sont tout un tas de choses terrifiantes, hein, autour des mères, que les mères seraient castratrices, que les mères, voilà, il y a une liste pas possible. Et donc, une mère qui écrit, ça veut dire qu'il faut être prudence plus. Donc j'ai essayé de ne pas trop appuyer.
Et voilà, vous l'avez fait en prudence plus. Alors, est-ce que c'est aussi un livre de la culpabilité quand même pour vous, Vivre vite? Non pas celle de ne pas avoir empêché ou pu empêcher ce qui est arrivé, mais plutôt celle d'être aujourd'hui encore pleinement en vie. Et peut-être d'aimer ça aussi, d'avoir renoncé à rien, d'avoir continué à vivre tout simplement.
Je pense que c'est un livre qui essaye de faire émerger des responsabilités. Parce que dans ces 23 petits chapitres mis bout à bout, qui sont comme 23 pièces d'un puzzle, tout en sachant que si une seule des pièces du puzzle ne s'emboîte pas, l'accident ne peut pas avoir lieu. Donc l'écriture fonctionne en effet avec un compte à rebours, avec une mécanique assez, hélas, efficace. C'est un livre qui parle du temps, c'est un livre qui parle de moteur, c'est un livre qui parle de tout un tas de circonstances de l'existence. Et bien sûr, chacun de ces chapitres met en scène une circonstance de l'existence, avec un membre de la famille, avec un ami, avec un notaire, avec quelqu'un qui vend une maison, avec un constructeur de moto. Bon, il y a tout un tas de personnages qui traversent le livre. Et forcément, il y a des questionnements autour de la responsabilité et presque de la culpabilité. Mais l'écriture de ce livre me permet de mettre tout ça à plat. Je crois que j'avais besoin de mettre tout ça à plat. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le seul... L'écriture est le seul moment où vous vous arrêtez et où vous regardez un peu, voilà, un état des lieux. Et il y avait notamment cette histoire de maison qui me travaillait beaucoup parce que j'avais été la seule, enfin c'était moi qui avais vraiment été l'élément moteur, c'est le cas de le dire, pour acheter cette maison qui, voilà, que la personne en question ne voulait pas vendre. Mais il se trouve que toutes les circonstances atténuantes, avec plein de guillemets, étaient que la dame qui m'a fait visiter, en fait c'était la maison d'à côté qui était à vendre mais qui était trop chère, bref, la dame qui m'a fait visiter la maison a dit deux ou trois phrases de trop. Elle m'a dit: Jean Moulin a organisé des réunions dans cette maison, nous sommes sur la commune de Caluire qui jouxte le 4e arrondissement de Lyon. Donc ça m'a fait évidemment délirer. Deuxième phrase, des parachutistes anglais ont été cachés dans la cave. Donc là, je monte d'un cran dans le désir. Et puis, troisième phrase, il y a une cache d'armes quelque part au fond du jardin. Et là, évidemment, la personne que j'étais, que je suis, peut-être doublée de l'écrivain que j'étais et que je suis, a vu un double mystère à éclaircir, a vu un double, tout un tas d'enjeux et qui rendait la vie bien plus palpitante. Voilà. Et donc, je commence à mettre ça en scène pour essayer de voir s'il y a culpabilité ou pas. Et en même temps, la culpabilité est quelque chose de très particulier. Et à partir du moment où on espère bien faire, où on veut bien faire, je me suis dit que la culpabilité n'avait pas lieu d'être. Donc, on marche sur le fil. Mais c'est ce qui est intéressant dans l'écriture, parce que l'écriture, c'est marcher sur un fil et c'est essayer de garder l'équilibre ou de retomber sur ses pattes.
Est-ce que vous êtes, alors, est-ce qu'il faut dire heureuse, je ne sais pas quel est le bon terme, mais est-ce que vous êtes heureuse que ce soit ce livre-là de vous, qui ait été récompensé du Goncourt ?
Alors, c'est une question étrange parce que c'est le livre le plus important de mon parcours, très probablement, avec Un loup pour l'homme, un livre qui parle de la guerre d'Algérie, qui est extrêmement important pour moi, puisque c'est le livre du père. Pour autant... Ça me paraît tout à fait étrange que ce livre ait cet écho assez large et que Claude soit nommé et que je parle de lui et que certaines personnes me parlent de lui. Et à un moment, je me suis demandé si j'avais pas fait une bêtise parce que je n'aurais surtout pas voulu qu'il devienne un personnage. Mais il fallait trouver une place, et peut-être que la seule façon de trouver une place qui soit vivable et sur un très long terme, c'était peut-être cette place-là. En fait, j'en sais rien, mais il y a eu un moment où j'ai eu très peur, parce que tout à coup, les choses, pour le coup, m'ont vraiment échappé. Enfin, encore une fois, c'est un livre qui parle que de ça, hein, qui parle de la vie qui vous échappe. C'est un livre qui pose la question du destin, en fait. Qui pose la question du mektoub, du fatoum, du mektoub, d'un côté, le destin, est-ce que c'était écrit, comme le dit ce mot-là. De l'autre côté, il y a le hasard, qui est l'inverse. Et puis, il y a encore une troisième notion qui est centrale dans l'écriture de ce livre, qui est le déterminisme social, géographique, politique, etc. Donc on appartient à ces trois, on navigue entre ces trois notions. Et c'est ce qui m'a fait écrire aussi, pour essayer de voir si c'était écrit. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre.
Mais en même temps, c'est intéressant parce que on dit souvent que les écrivains, en faisant des livres où ils parlent de la disparition, de l'absence, de la mort d'un être cher, ils leur dressent il leur élève des tombeaux littéraires. Et en même temps, ce livre-là, il le garde en vie aussi, Claude. Il garde votre histoire d'amour en vie. Et ce Goncourt fait passer presque cette histoire à la postérité, ce qui le charge, charge ce livre peut-être d'une symbolique énorme et compliquée à comprendre aujourd'hui, mais c'est aussi la manière dont vous dites cette histoire, à un moment, elle vous a échappé. Mais c'est un peu le cas de tout livre publié, on imagine, oui.
Oui, puis je crois que c'est même l'histoire de nos existences. Hein. Je veux dire, bien sûr que ça échappe, et heureusement que ça échappe, et heureusement qu'on n'est pas capable de tout expliciter, de mettre du sens. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. J'ai essayé de vouloir tout comprendre. C'est un livre obsessionnel. C'est le livre de quelqu'un qui veut comprendre pourquoi cette moto qui n'appartenait pas à Claude, construite au Japon par la firme Honda, mais interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse, réservée à l'exportation vers l'Europe. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? Qu'est-ce que c'est que le profit, la chose politique, l'homologation ? Enfin, je me suis penchée sur tout un tas de notions parfois assez techniques parce que j'avais besoin de tout comprendre. En même temps, c'est difficile d'être écrivain quand on n'a pas ce désir chevillé au corps et à l'esprit de vouloir tout comprendre. Ce qui était compliqué, c'est que je me borne à 23 chapitres et que je n'écrive pas 2000 pages, en fait.
Donc c'est à la fois une histoire évidemment très intime, puisque c'est la vôtre, c'est votre tentative de compréhension. Mais qu'est-ce qui la rend universelle, au fond ? Est-ce que c'est cette mise en partage de cette incompréhension ou de cette tentative de compréhension qui fait que chacun peut s'y retrouver et chacun peut vous déposséder un peu de cette histoire pour se l'approprier ?
Alors c'est vrai que moi je ne suis pas la mieux placée pour savoir si cette histoire est universelle et si elle l'est, tant mieux et ça me...
Alors vous êtes peut-être la mieux placée pour savoir pourquoi vous la mettez en partage, cette histoire. C'est-à-dire pourquoi vous en faites un livre,
oui,
que vous publiez.
Oui, alors ce qui m'a intéressée, et je le dis quand j'ai l'occasion de le dire, pour moi l'intime, il a beaucoup été dit que ce livre est un livre de l'intime, certes, mais pour moi l'intime n'a de sens évidemment que quand il résonne avec le collectif. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est un livre qui cherche des partenaires en fait. Parce qu'il s'agit d'un deuil qui est un deuil singulier. C'est un livre qui pose cette question aussi, de savoir, il y a différentes sortes de deuils, il y a des deuils qui concernent une communauté parce que plusieurs personnes au même moment ont été exposées au même drame. Je pense à la guerre, je pense à des bombardements, je pense à des attentats, je pense à la déportation, je pense à mille choses terribles, mais qui concernent un groupe de personnes. Ça veut dire qu'il peut y avoir parole commune, il peut y avoir échange, il peut y avoir, il y a la plupart du temps procès, il y a la plupart du temps commémoration. Donc ça peut être porté par un groupe d'êtres humains. Quelqu'un qui se plante en moto, non seulement ça n'a pas de sens au vu de l'histoire, je veux dire de l'histoire avec un grand H, mais ça veut dire aussi que la personne ou les deux ou trois ou quatre personnes qui restent dans ce fracas ne peuvent pas être dans un lien symbolique ou concret aux autres. Et finalement, je me suis rendu compte que ce livre, parce qu'on me l'a dit aussi, était une recherche de partenaires et apparaissent, par exemple, l'arène Astrid. Parce que l'accident a lieu sur un boulevard de la ville de Lyon, le boulevard des Belges, devant un hôtel 5 étoiles qui s'appelle le Reine Astrid. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas donné la peine de savoir qui était la Reine Astrid et je me suis rendu compte qu'elle était morte elle-même dans un accident de voiture à 23 ans, conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique. Donc c'est le premier partenaire. Après, il y a le naturaliste Émile Guimet. Après, il y a Stephen King. Après, il y a Paco Rabanne qui est là à la fin, qui vient de mourir. Et je me suis aussi posé la question de savoir, c'était l'année de l'éclipse, 1999. Donc il y a un lien un peu fort avec l'éclipse. Donc je me dis, vous souvenez, Paco Rabanne avait annoncé la fin du monde en se basant sur les prédictions de Nostradamus. Et moi, j'espérais que ce serait la fin du monde pour tous, pas uniquement la fin de mon monde en 1999. Et je me suis intéressée de près à Paco Rabanne et je me suis rendu compte qu'il avait perdu son père quand il avait 8 ans. Le même âge que mon fils, son père fusillé par les franquistes, qu'il avait fui en France avec sa mère. Et je me dis, bon, voilà. Et tout le livre fonctionne de cette façon. Et peut-être que ça m'a permis, inconsciemment, il y a même Elie Kakou qui apparaît un moment. C'est une galerie de portraits que j'avais pas du tout prévu de voir émerger. Et je crois que tous ces partenaires, tous ces êtres humains sont venus finalement donner un petit peu de sens ou épauler un deuil qui devait se dérouler de façon solitaire.
Est-ce que vivre vite, Brigitte Giraud, c'est le dernier ricochet du coup ? Est-ce que ce Goncourt aussi change peut-être un peu ce projet, même s'il n'était pas totalement écrit dans votre tête ? Est-ce que c'est une fin ou pour vous une sorte de nouveau départ ?
C'est un petit peu tôt pour le dire. C'est vrai que ce livre me semble comme être un aboutissement d'un parcours littéraire. Tout à l'heure, quand je disais aussi qu'il me fallait être à la hauteur pour oser écrire ce livre, je crois qu'il me fallait aussi être à la hauteur littérairement parlant. Alors je ne sais pas si on est plus à la hauteur au bout de 12 ou 13 livres que lors de l'écriture du premier, j'en suis pas sûre, mais en tout cas, il me fallait peut-être me sentir un tout petit peu plus armée. Là, pour l'instant, je crois que c'est la première fois que je me dis que s'il n'y avait pas d'autres livres, ça ne serait pas si grave. Je m'étais jamais dit ça précédemment. Je pense que ça, j'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt, mais j'imagine que je vais faire soit un pas de côté très très large, très grand, très radical. C'est peut-être ce qui me plairait le plus. Mais peut-être qu'il y a encore une case importante qui mériterait d'être creusée sous un angle différent. En fait, quand on publie un livre, il y a toujours quelque chose à quoi vous avez été obligé de renoncer. C'est ce que me disait mon éditeur Jean-Marc Roberts au tout début du parcours. Il me disait « Mais c'est pas grave, si tu n'as pas pu parler de ça, c'est la raison qui fait que tu écriras d'autres livres. » Et j'ai ça en tête tout le temps.
Vous
ça
la voyez,
veut dire,
cette case, vous la voyez déjà ?
Je vois un petit bout de case, mais ce ne serait pas un livre qui parlerait du deuil, ce ne serait pas un livre, ce serait un pas de côté radical, mais qui creuserait peut-être encore un angle aveugle. Parce que Dieu sait que dans nos existences, c'est comme un diamant, en fait, avec tout un tas de facettes. Et il y a forcément des facettes qui n'apparaissent pas tout de suite, et c'est ce qui est beau dans l'existence. C'est que tous les jours, il y a quelque chose qui vient émerger, qui vient vous percuter. Et j'aime bien quand les livres ne sont pas forcément prévisibles ou qu'ils n'ont pas la forme que...
Prévisible pour le lecteur ou pour vous ?
C'est-à-dire
même quand
il
s'impose...
Oui, pour moi,
quand il surgit ou s'impose à vous.
Oui, il faut qu'il surgisse, qu'il s'impose, qu'il soit nécessaire et puis prendre le temps pour trouver la forme. C'est aussi pour ça que j'ai pris 20 ans pour écrire Vivre vite, parce qu'il fallait que je trouve la forme. Et tant que j'ai pas la forme, tant que j'ai pas le sillon qui va me permettre d'ouvrir de partir un peu bille en tête, je m'abstiens.
Il est mort en 2013, année de publication de Avoir un corps, Jean-Marc Roberts, chez Stock, qui a été le premier à vous faire confiance, votre premier éditeur. Est-ce que vous vous souvenez de ses premiers mots, de ce qu'il vous a dit, de cette mise en jambe littéraire ?
Non, je me souviens pas exactement. Je me souviens du coup de fil quand j'avais envoyé la chambre des parents. J'habite à Lyon et le coup de fil me disait qu'il fallait que je sois à Paris le lendemain matin à 11h. Ça, je me souviens de ça. Et d'ailleurs, dans Vivre vite, il y a un petit chapitre qui parle de qu'est-ce que c'est que d'être provincial quand son éditeur est à Paris, qu'est-ce que c'est que de devoir... anticiper le billet de train, le fait d'être logé, où on dort. Alors maintenant, c'est un peu différent parce que c'est, on va dire, plus confortable. Mais au tout début du parcours, il faut se projeter dans la capitale. Et ce petit chapitre dans Vivre vite m'amuse aussi. Il y a beaucoup de choses avec pas mal d'ironie et de l'humour, c'est la moindre des choses d'écrire aussi avec cette énergie-là. C'est pour ça que c'est bien d'être à la bonne distance et de prendre le temps. Et c'est vrai que la provinciale que j'étais il y a plus de 20 ans, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, imaginait que d'aller à Paris, fallait absolument en profiter pour voir une expo, par exemple. Fallait aller au Grand Palais, voir Boltanski, fallait amortir sa journée à Paris. Et c'était très épuisant et totalement insensé, parce que je vois aujourd'hui, c'est très différent, c'est un peu comme les Parisiens qui font pas plus de choses que... C'est très drôle tout ça. Et donc, voilà, je me souviens de l'heure du rendez-vous avec Jean-Marc Roberts, 11h, je m'étais dit, mais alors, ça veut dire qu'ensuite on déjeune ensemble ou pas? J'essayais d'interpréter... Non, je me souviens quand je suis arrivée dans mais son
il avait,
bureau...
Il avait dit oui déjà pour le manuscrit ou pas?
Alors, c'était très intéressant parce qu'en fait, il m'avait dit, faut qu'on se voit. Et j'étais évidemment, j'avais très très peur parce que faut qu'on se voit... Est-ce qu'il, je me disais si, alors donc on interprète les signes, on est déjà dans l'interprétation de tous les signes. Si me fait venir, ça veut dire que si c'est 11 heures, peut-être que voilà. Et ensuite, il y a eu un travail de réécriture que j'ai réalisé avec Jean-Noël Pancrazy. Et donc j'allais chez Jean-Noël Pancrazy, c'est pas un secret du tout, pour retravailler ce premier roman. Et j'étais très impressionnée et tout me paraissait très voilà.
D'accord, donc il n'a pas dit un oui ferme et définitif tout de suite, il vous a demandé de retravailler le livre,
mais il a dit que c'était quand même intéressant. Alors, ce qui était vraiment
il
très, très intéressant...
Il vous a invité à déjeuner ou pas après, finalement?
Alors après, non, en fait, il ne m'a pas invité à déjeuner, et je me suis dit, ah oui, mais alors à Paris, c'est pas tout à fait... Non, 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 là, je plaisante, je fais bécassine, là, mais pas du tout, pas du tout. Non, ce qui était très beau, c'est qu'il a mis le doigt directement sur les 2-3 passages dont je savais très bien qui n'était pas abouti, parce que quand vous écrivez un manuscrit, notamment un premier texte, enfin celui qui va devenir le premier texte, il y a un moment vous n'en pouvez plus, il faut absolument que le manuscrit sorte du bureau, il faut vraiment qu'il soit envoyé, parce que c'est plus supportable de retravailler soi-même, on voit plus rien, mais on sait quand même très bien, on sait intuitivement les endroits où on n'est pas allé tout à fait au bout. Et il a mis vraiment le doigt exactement là où il fallait retravailler, ce qui pose une confiance d'emblée. Et ça, c'est essentiel avec un éditeur.
Justement, sur votre style, sur votre langue, assez votre langue d'écriture, assez simple, assez directe, souvent assez resserrée, sans fioritures, on pourrait dire. Est-ce que ça, vous le recherchez? C'est-à-dire, est-ce que vous relisez? Est-ce que vous coupez, vous resserrez déjà au moment de l'écriture pour rechercher et trouver cette forme-là?
Alors, ça dépend des livres, mais c'est vrai que pour Vivre vite, ce qui m'inquiétait, ce qui aurait pu m'inquiéter, c'est ne jamais céder à aucune possibilité d'épanchement. J'aime pas du tout ça quand je lis les autres. Je suis une grande lectrice et j'ai besoin de justesse dans ce que je lis, dans ce que j'écris. C'est-à-dire vraiment la recherche de la justesse. Parfois, peu de mots qui vont ensemble, mais la bonne juxtaposition de mots qui sont pas nécessairement, qu'on voit pas habituellement ensemble. J'aime bien ça. J'aime bien le petit décalage qui va me mettre en, qui va m'exciter, en fait, qui va me plaire. Il faut que ça sonne, il faut que, et que l'enchaînement de phrase en phrase conduise à quelque chose qui soit fluide, qui pulse, où il y ait une rythmique, que ce soit musical en fait. Voilà, alors ça dépend des livres. Pour Un loup pour l'homme, je sais qu'il y a des moments un tout petit peu plus lyriques, avec plein de guillemets, parce que lyrique dans mon cas c'est faiblement lyrique. Mais je sais qu'il y a quelques adverbes que j'ai un peu laissé passer dans Un loup pour l'homme, qui nécessiteraient peut-être, je sais pas, un livre que je retravaillerais, évidemment, surtout pas, mais je sais que j'ai laissé passer des phrases peut-être un peu, qui se déploient un petit peu trop.
Il y a toujours eu beaucoup de musique dans votre vie, avec Claude, et dans votre vie à vous tout court, Brigitte Giraud. Est-ce que du coup, pour que vos phrases soient musicales, comme vous le disiez, vous écrivez en musique? Ou c'est l'absolu silence qui est nécessaire?
Non, surtout pas. Quand j'écris, c'est le silence absolu, parce qu'il est impossible d'entrer dans la musicalité d'un autre. Donc j'écoute avant, j'écoute après, j'écoute le soir, enfin peu importe, mais jamais, jamais pendant le temps d'écriture. Il faut vraiment franchir tout un tas de strates et de zones pour finir par trouver sa propre musicalité, qui n'est pas forcément la même d'un livre à l'autre, mais non, le silence.
On parlait réalité, on parlait fidélité tout à l'heure. Quelle est, du coup, la contrainte? Alors là, je reviens plutôt au fond, mais la contrainte que vous vous fixez quand vous écrivez. Quand est-ce qu'un texte vous semble abouti? Vous employez souvent le mot de justesse. Quand est-ce qu'on touche cette justesse? Quand est-ce qu'elle vous semble acquise? C'est un principe de réalité ou un principe de vérité, en fait, la justesse?
Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de me surprendre moi-même, en fait. Ce dont j'ai besoin, c'est de trouver ce que je ne cherchais pas, que ce soit dans l'écriture, ou que ce soit dans la construction, ou que ce soit dans même le scénario. Dans ces différents « si » qui émergent, il y en a quelques-uns que je n'avais pas du tout vu venir. Celui qui concerne Stephen King, par exemple, est arrivé alors que je ne l'avais pas imaginé à l'avance, et ça me plaît beaucoup. De me laisser détourner, de me laisser... à un moment, je parle de la météo. Je n'avais pas du tout prévu de me dire si ce jour-là, s'il avait plu. Ça paraît tellement trivial et tellement ordinaire. Et là, en écrivant ce petit chapitre parmi les 23 autour de la météo, je me rends compte qu'on peut dire des choses totalement... passionnante, en tout cas moi qui m'intéresse, sur la façon dont, par exemple, en 1999, avant le tout numérique et avant que nous ayons les applis météo, c'était très passionnant la façon dont, dans une ville, on était capté par les points cardinaux, la façon dont le vent souffle, dont les nuages avancent, dont la vapeur d'eau se dépose entre les deux fleuves à Lyon. Enfin, la façon de regarder ce qui va advenir comme étant ce qu'on appelle la météo est quelque chose qui m'a passionnée en écrivant ce chapitre. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'écriture. Donc, quand un livre est terminé... c'est quand il me semble que je me suis laissée surprendre, dans le bon sens du terme, par tout un tas de réalités qui sont venues me visiter. Ça me plaît beaucoup. Alors ce livre-là, pour autant, Vivre vite au départ, il avait une deuxième partie qui faisait aussi 200 pages. C'était un livre de 450 pages au départ. Donc il y avait le compte à rebours, les 20 ans avant l'accident. Il y avait... de l'accident jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au moment où je terminais l'écriture. Donc encore autre chose dans un rapport au temps qui se déplie. Donc j'aimais bien l'idée plastique de ces deux 20 ans. Et puis au milieu, j'avais envisagé de laisser 6 ou 8 pages blanches qui figuraient l'endroit de la, on va dire, de la douleur. Parce qu'il me semble que la douleur, ou l'immense douleur en fait, est quelque chose qui reste indicible. Enfin, je suis pas sûre qu'il soit possible de l'écrire. On peut tourner autour, on peut tenter de creuser des sillons, de modeler, de voilà. Et donc j'avais vu ce livre comme un objet plastique qui ressemblait à cela. Et puis et donc dans ces 200 pages jusqu'au temps présent, en fait. Je parlais évidemment de ce qu'est le deuil, mais je parlais de la présence de l'autre, des signes, des coïncidences, des choses tout à fait troublantes, les fameuses 5 étapes de deuil que vous êtes priés d'accomplir en 2 ans, comme nous l'enjoignent les manuels de psychologie un peu indélicat, le rapport à la résilience, enfin tous ces grands mots qui sont assez terribles, mais c'est assez drôle en même temps. Parce qu'on sait que c'est assez mensonger, en fait. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Enfin, j'ai passé encore 2 ans à écrire ce livre-là. Donc là, j'estimais qu'il était fini. Et puis, 3 semaines avant que le livre parte chez l'imprimeur, j'ai appelé mon éditrice, Alix Penant. Je n'osais pas l'appeler. Je lui ai dit, écoute, Alix, il y a un truc qui ne va pas. C'est que la deuxième partie, je me sens pas de... C'est peut-être encore trop tôt, est-ce qu'on peut l'enlever? Et c'est là aussi la chance d'être accompagnée par un éditeur, en l'occurrence une éditrice qui comprend le travail, qui comprend le projet et avec qui on peut échanger. Voilà, donc c'est difficile de savoir quand c'est terminé.
La romancière Brigitte Giraud est aujourd'hui l'invitée des masterclass de France Culture, de la BNF et du CNL. On est avec vous en public à l'auditorium de la Bibliothèque nationale de France, donc pour cette masterclass littéraire. Je voulais qu'on revienne un peu sur Un loup pour l'homme. Avec ce livre-là, roman, c'est un roman, vous retournez en Algérie, l'Algérie où vous êtes née, Brigitte Giraud, l'Algérie de vos parents, à qui ce roman est d'ailleurs dédié, l'Algérie en temps de guerre, aux côtés d'Antoine, qui est un appelé, infirmier à l'hôpital militaire de Sidi Bel Abbès. Il n'ira pas directement au front, au combat, sur le théâtre des opérations, il va rester en coulisses, dans cet hôpital où il écoutera, Antoine, les récits des soldats en pyjama, c'est-à-dire blessés, et pour certains, mourants. Il va tenter de sauver des vies qui sont abîmées par la violence de la guerre. Ce roman, vous l'avez écrit à la troisième personne, mais il vous a été inspiré de l'histoire de vos parents, l'histoire de votre père, notamment appelé également quand il avait 20 ans. Il a été écrit du vivant de votre père, c'était un souhait, un désir que vous aviez. Est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là des choses pour ce roman, parce qu'il savait que vous alliez l'écrire, des choses qu'il ne vous avait jamais dit auparavant, votre père?
Ben oui, c'est aussi un livre que j'ai mis très longtemps à écrire, quasiment 20 ans, parce que je savais que mon père avait été appelé en Algérie, je savais que ma mère l'avait rejoint, je savais qu'il y avait eu 2 années, hein, à l'époque c'était très long, je savais que c'était passé des choses qui avait débouché sur un silence, qui me posait question. Il y avait une phrase qui faisait écran, qui disait « Il faisait beau tous les jours, c'était comme des vacances ». Je trouvais cette phrase un peu suspecte, une phrase qui se veut tellement rassurante qu'elle en est inquiétante. Puis il y avait une autre phrase qui nécessitait de ma part que j'aille peut-être creuser un peu plus loin, qui était « Je n'ai pas voulu tenir une arme, alors j'ai demandé à faire une formation d'infirmier ». Et en effet, mon père a toujours été quelqu'un, il est mort hélas en juillet 2020, le roman est paru en 2017, donc c'était quelqu'un qui était très très, comment dire, qui savait soigner. Quand on était enfant, il savait ce qu'il fallait faire pour la fièvre, pour des maux de ventre, pour tout. Il avait ce sens-là. Et donc, je essayais de parler avec lui. Je lui avais dit que je voulais écrire un livre. Il savait dans quel contexte. Je voulais qu'on puisse avoir des conversations. Je voulais savoir ce qui s'était passé dans cet hôpital militaire à Sidi Bel Abbès, comment il y avait officié en tant qu'infirmier militaire. Il m'a confié beaucoup de choses et pour autant, je n'osais pas lui poser des questions. Vous savez, les grandes questions qui vous hante, des questions sur la vie, sur la mort et sur la violence. Donc je lui posais des petites questions sur la vie quotidienne. Comment est-ce que vous étiez habillée à l'hôpital? Où est-ce que tu dormais dans la chambrée? Quand vous preniez le véhicule militaire pour aller récupérer des blessés sur place, est-ce que tu étais assis devant ou derrière, etc. Et c'était avec ces questions qui parlait de la vie la plus quotidienne, que petit à petit il embrayait sur des souvenirs qui lui venaient et qui là mettait en scène des faits beaucoup plus importants et beaucoup plus intérieurs. Et il y a un jour, alors je lui demandais comment l'hôpital militaire était organisé, et là il me dit ben en bas il y avait une grande salle avec les blessés, les jeunes gens qui avaient des blessures physiques. Des fractures, des tympans éclatés, des brûlures, enfin, il n'y a que l'embarras du choix, hélas. Et là, il m'avait dit, et puis à l'étage, il y avait ce qu'on appelait les psychiatriques. Et je me suis dit, les psychiatriques, j'avais l'impression que c'était là que ça commençait, le lien entre mon père, la guerre d'Algérie et le soin. Et là, il m'a raconté qu'un matin était arrivé sur un brancard un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était vraiment très amoché. C'est mon père qui était de garde ce jour-là. Il lui avait pris la main et lui avait dit « Mais t'inquiète pas, on va te sortir de là ». Et là, c'était pour la première fois de ma vie que j'ai vu mon père, que j'ai senti mon père au bord des larmes. Donc, on a parlé un peu d'autre chose. Et je me suis dit « Le gros chagrin de la guerre d'Algérie n'était sans doute pas celui que je croyais, mais c'était peut-être celui lié au fait de ne pas avoir pu sauver ». Un homme ou des hommes. Et c'est là que le roman s'est construit et qu'est apparu le troisième personnage, Oscar, qui est ce jeune homme blessé, amputé d'une jambe et mutique.
Et c'est là que l'écrivain ou l'écrivaine que vous êtes devient aussi un témoin de la douleur, hein, de la douleur des autres, de la douleur de votre père, et que vous transmettez cette douleur.
Alors je voulais comprendre, en effet, une douleur qui n'est pas dite, qui feignait être inexistante. Alors ma phrase n'est pas correcte, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ce silence était très perturbant. Il y avait des choses dans un album photo qui me posaient beaucoup de questions également. Ce que je voulais comprendre, c'était d'où venait vraiment ce silence de ces appelés, parce qu'on peut comprendre qu'ils sont restés silencieux, parce qu'ils ont vécu des choses terrifiantes, traumatisantes. Mais ce dont je me suis rendu compte en écrivant, c'est que ces jeunes gens, qu'ils aient commis ou pas des actes terribles, on a beaucoup parlé de torture concernant la guerre d'Algérie, mais il y avait aussi tout ce qui était la entre guillemets, la torture ordinaire, c'est-à-dire tout un tas d'actes qu'on a assez peu répertoriés. Je me suis rendu compte que ces jeunes gens avaient été les témoins, malgré eux, de situations terribles qu'ils n'avaient pas pu empêcher, qu'ils ont été des témoins impuissants. Et je me suis dit que le fait d'être un témoin impuissant, c'est ce qui va vous renvoyer à la honte. Quand on ne peut pas empêcher ce qui est terrible, on porte cette honte et la honte se transforme en silence, voire pire. Et là, j'ai vraiment compris aussi que les moments, il y a certains moments où l'histoire d'Oscar va dire cela dans le livre, le fameux moment où on est confronté à la survie immédiate, c'est-à-dire que c'est l'instinct qui parle. C'est pas du tout le cerveau qui va prendre une décision, mais c'est le corps tout entier qui va devoir agir. Fait que l'être qui est en train d'agir va être, malgré lui, un héros, un salaud, un lâche, un traître, dans l'instant. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir. Et c'était d'écrire ce livre m'a permis de traverser toutes ces strates et de comprendre énormément de choses, mais pour mon père, mais de façon plus générale.
Un loup pour l'homme, c'est un livre somme, comme vous l'avez presque qualifié, Brigitte Giraud. En tout cas, vous avez dit qu'il contenait toutes vos obsessions, ou presque, des obsessions que vous avez pu mettre en scène dans d'autres romans. Il y a une autre thématique très présente dans vos livres, dans votre œuvre, c'est la question de l'adolescence, qui est devenue un de vos territoires littéraires de prédilection, de jours de courage, à Nous serons des héros. Mais il reste assez peu de temps, et je voulais vous poser quand même une question sur le corps, vous venez d'en parler, mais sur le corps de l'écrivain. En 2013, paraissait cet autre roman de vous, Avoir un corps, chez Stock, un beau roman qui évoque toutes les métamorphoses du corps, hein, de la fille à la femme, sur sa manière aussi qu'a ce corps ou qu'ont nos corps de traverser l'existence, corps sain, corps malade, d'accepter à la fois les premières caresses, de s'exposer au désir de l'autre, de se mettre en mouvement ou de tendre vers l'effort, de porter la vie, d'encaisser la perte, le deuil, de vieillir aussi tout simplement. Le corps de l'écrivain, bah, il se met aussi en mouvement à travers la main. Qu'on écrive avec une plume ou sur un ordinateur, c'est évidemment par là que ça passe, mais pas seulement. Il y a quel espace, il y a quel monde entre le corps écrivain et l'écriture, justement? Il y a une interface qu'on ne voit pas?
Ouais, c'est une question qui est vraiment très intéressante, mais qui est reliée à quelque chose d'assez énigmatique. Moi, j'ai toujours eu la sensation que pour écrire, il fallait aller bien. Il fallait aller bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire être, ne pas être trop, ni trop déprimé, ni tout cela. Mais il faut aussi être en pleine possession de ses moyens physiquement parlant. Parce que l'écriture est vraiment, j'allais dire, presque un sport de combat.
Oui, c'est un effort, en fait.
Ça mobilise quelque chose d'assez intense. Moi, je suis très physique parce que quand j'étais jeune, j'ai fait pendant très longtemps de la danse et de la gymnastique de compétition, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui vous relie à l'effort, au temps long, à la persévérance, à la recherche d'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et par ailleurs, je marche beaucoup en montagne, ce qui compense beaucoup le fait d'être statique à une table d'écriture. Moi, j'ai besoin des deux, comme un balancier.
Donc, il faut à la fois... Il y a cette idée d'effort et de discipline aussi qu'on doit retrouver, on imagine, dans l'écriture.
Hein. Ouais, c'est du temps long, c'est ce que je dis parfois aux lycéens que j'ai la chance de rencontrer. Quand ils demandent une des questions, c'est combien de temps pour écrire un livre? Et quand on leur dit la vérité du temps de l'écriture, ça semble les effrayer. Et je leur dis que l'effort est quelque chose qui permet à l'être humain d'être debout et d'avoir du sens dans son quotidien. C'est quelque chose qui fait que il y a une raison de se lever le matin, parce qu'il faut revenir sur le, pour aller plus loin, pour aller plus juste, et moi je trouve que c'est très beau.
Et cette idée de flux, hein, que vous avez déjà évoquée, je ne sais pas comment vous le voyez, ce cycle du flux quand vous écrivez, ça vient peut-être du ventre, du cœur, ça passe par le cerveau et ça va jusqu'à la main.
Je ne sais pas trop. Moi, ce dont je suis sûre, c'est que je ne crois pas que je sois une intellectuelle. Je ne me sens pas comme une intellectuelle. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'écrire avec une pensée que je voudrais mettre en mouvement ou mettre en jeu. Il me semble que ça vient d'ailleurs. Ça vient de quelque chose de plus, sans doute, de plus viscéral, oui.
Merci beaucoup à vous, Brigitte Giraud. Merci mille fois. Et puis merci à vous d'être venue écouter, participer à cet entretien avec Brigitte Giraud. Merci.
C'était la masterclass de Brigitte Giraud avec Olivia Gesbert, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Attachée de production Corinne Amard, coordination Christine Bernard, prise de son Virginie Lorda et Julien Calvas, coordination technique Francesca Fossati, réalisation Perret Legras.